La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Nov, avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Nov FM Weekend.
Nouveau rendez-vous de la biodiversité samedi sur Nov FM. Chaque premier samedi de mois, nous invitons des experts. La proposition est celle du syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. Aujourd'hui, le sujet est fascinant, assez effrayant, vous allez le voir. Et pourtant, on va parler avec notre expert du jour des chauves-souris, les chiroptères. Bonjour Gwenaël Landais.
Bonjour.
Alors je dis inquiétant, mais on va préciser ça, il n'est pas si inquiétant que ça. Vous êtes technicien forestier territorial de l'ONF, Office National des Forêts, notamment en charge de la forêt domaniale des Pays de Mont. Vous arrivez sur le territoire après une vingtaine d'années en Normandie. On peut rappeler le rôle de l'ONF, ses différentes missions?
Alors, l'Office National des Forêts est en charge de la gestion forestière des forêts publiques en France. Elle répond en termes de gestion au triptyque production, récolte de bois, protection des sols, protection contre les incendies, et puis aussi protection de la biodiversité, et puis aussi répond à l'accueil du public sous toutes ses formes, accueil par des équipements touristiques, des animations, et donc voilà tout ce qui constitue le rôle social de la forêt.
Alors si on vous a sollicité, vous, sur le thème du jour, ce n'est pas par hasard. D'abord, la biodiversité, ça vous parle, mais les chauves-souris aussi, notamment via les réseaux naturalistes de l'ONF.
Tout à fait, l'ONF est doté de plusieurs réseaux, pas seulement naturalistes, hein. On a des réseaux archéologie, réseaux accueil du public, etc. Et nous avons 5 réseaux naturalistes, qui vont de l'habitat, flore, en passant par la mycologie, les insectes, les oiseaux, et puis bien sûr les mammifères, dont les chauves-souris.
Vous avez lancé un programme d'inventaire de suivi des chauves-souris, un programme national.
Oui, alors le réseau existe depuis 2004-2005, et depuis, en fait, on inventorie dans les réserves biologiques, en forêt domaniale, les chauves-souris qui sont présentes. On inventorie aussi tous les îlots de vieux bois, qu'on a constitué dans chaque forêt domaniale, et tout ce qui fait partie aussi des connexions entre ces îlots. On a aussi des programmes sur des espaces bien spécifiques, peu connus, où là, c'est vraiment des programmes de recherche pour savoir un peu comment évoluent et vivent ces animaux. Et puis, on a aussi des programmes qui se font par rapport à l'actualité, notamment les dépérissements de résineux dans l'est de la France, où là, on étudie quel impact sur les chauves-souris, sur la biodiversité en général et sur les chauves-souris.
Alors, on sait à peu près combien de chauves-souris sont installées en France déjà?
Alors, déjà, dans le monde, c'est 1200-1300 chauves-souris, espèces de chauves-souris. En France, on est à 36 depuis peu, puisque une chauve-souris a été découverte en Corse. Alors avec les progrès en fait de la génétique, on a des espèces qu'on découvre continuellement. Donc je pense que c'est pas encore limité, on va encore en découvrir d'autres. Pour la petite histoire, c'est le murin noustral, donc là, de Corse. Et donc, sur les Pays de Mont, on peut estimer qu'on a 10-11 chauves-souris sur les 18 présentes en Vendée.
10-11 espèces, ça fait combien d'individus?
Ça, c'est quasi impossible à savoir comme ça. En fait, on n'a pas connaissance de toutes les colonies, de tous les individus. En fait, nos méthodes d'inventaire ne permettent pas ça. C'est beaucoup trop important. Donc, on peut avoir une idée de l'activité. Est-ce que les milieux sont favorables ou pas aux chauves-souris? On peut avoir des connaissances parfois de colonies, qui sont assez importantes, qu'on peut protéger aussi. Mais on n'a pas l'exhaustivité vraiment de tous les individus.
Et même pas une estimation?
Non.
Bon, bah, tant pis. Mais en tout cas, voilà, la finalité, c'est vraiment la préservation de la biodiversité dans votre programme d'inventaire, de recherche, et de l'espèce, des espèces. Là, on va en reparler, c'est un animal qui est assez impacté, qui doit être protégé.
Oui, tout à fait. Depuis les années 60-70, en fait, on constate une dégradation permanente des populations. Ça, c'est modification de l'environnement, du paysage, l'utilisation des pesticides, tout un tas de choses liées à l'activité humaine, les transports, les infrastructures, etc., qui impactent vraiment négativement les populations. C'est important de les étudier parce que par ailleurs, elles nous sont très utiles, notamment quand on sait qu'une pipistrelle commune peut consommer 600 moustiques par nuit, ça devient intéressant pour tout à chacun.
J'avoue, ça change tout pour moi de savoir ça. 650 moustiques par nuit.
Entre 600 et 1000 moustiques par nuit.
Alors, on parle de chauve-souris communément, mais en fait, on devrait parler de chiroptère. On peut rappeler, on va repartir un petit peu à zéro là, pour découvrir un petit peu l'animal, le chiroptère. Pourquoi ce nom?
Ouais, en fait, alors vous avez raison, elles sont ni chauves ni souris. On les a appelées chauves parce que du coup, elles n'ont pas de poils sur les ailes. Souris parce que certains ont dû l'apparenter à un moment donné à une souris. Mais leur nom plus spécifique, effectivement, ce sont les chiroptères. Chiroptères, c'est qui volent avec les mains. ou main ailée. Et là, quand on s'intéresse un peu à la morphologie des espèces, ça prend toute sa dimension. Imaginez une chauve-souris, en fait. Vous imaginez avec des pouces assez longs, avec des grandes griffes, des doigts qui sont très très longs. Et entre ces doigts, en fait, vous avez une membrane de peau très vascularisée. Entre vos membres postérieurs et antérieurs, vous avez aussi cette membrane. Et entre les deux membres postérieurs, vous avez aussi une membrane. Donc ça vous fait un vrai parachute. Et du coup, elles volent avec les mains parce que avec leurs doigts, finalement, elles sont capables de faire tout un tas de vols dynamiques.
Alors on parle donc des chiroptères, des chauves-souris. Je vous propose une pause et on va raconter un petit peu ce mammifère qui vaut d'être connu et peut-être un peu moins craint. Ce sera notamment le sujet de la deuxième partie. À tout de suite.
J'étais pas le même vendredi, t'avais pas non plus croisé ma vie. J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie. Je t'ai attendu, vois-tu, et depuis, c'est pas demain la veille que je maudirai le réveil. Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas devant la vie que l'on a tant qu'on vit tous les deux. Pas demain la veille que je maudirai le soleil, car le soleil c'est toi et moi solennel pour une fois. Je ris pas, oh, oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. Moi je t'aimerais toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque, on va quitter Paris. Puis je te chanterai en cloque en attendant le petit. Je ris pas, oh, oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit ou je t'aimerai toute la vie pour de vrai. Que j'ai pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Je ris pas, oh, oh, oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit, moi je t'aime toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai pour de vrai. T'es tout ce que j'ai.
Sur 9FM, la biodiversité samedi, elle vole avec les mains, les chauves-souris, les chiroptères, les mammifères, hein, pour nous les raconter, Gwenaëlle Landais de l'ONF. Alors on peut rappeler, voilà, c'est un mammifère la chauve-souris, avec une morphologie spécifique.
Oui, c'est un mammifère homéotherme, comme nous, vivipare, elles font des petits directement. avec des poils. Par contre, c'est un mammifère, mais un petit peu spécial tout de même. Et elles ont des particularités assez surprenantes. C'est le seul mammifère capable d'un vol actif. Et en plus, elles le font bien puisqu'elles sont vraiment très, très mobiles, très, très souples dans leur vol.
Autre caractéristique ?
Elles ont une très grande longévité, 25-30 ans, voire jusqu'à 40 ans. Ça, on a pu s'en apercevoir lorsqu'on baguait les chauves-souris. Donc on, voilà, il y a eu des bêtes de retrouver très âgées. Donc ça, c'est vraiment une particularité pour ces petites espèces. Une reproduction très élaborée, parce qu'on a, ce qu'on appelle des spermatozoïdes longue conservation. C'est-à-dire que le mâle lui-même peut stocker ses spermatozoïdes très longtemps, et la femelle aussi, en hiver, peut les stocker, enfin les stocke dans son organisme.
C'est un animal qui s'adapte comme peu d'autres, on va en découvrir. Ben, ça, c'est plutôt rigolo, longue conservation.
Voilà, c'est ça. En fait, oui, elle a des stratégies pour sa survie, en fait, qu'elle a développées depuis des millions d'années, finalement.
Dernière caractéristique, peut-être un peu à part.
Alors, en fait, elle prospecte, les espèces de chauves-souris prospectent toutes les niches écologiques du monde.
C'est-à-dire ?
Alors, du coup, elles sont alors essentiellement insectivores, mais on y reviendra. Il y a quelques petites exceptions en France. Donc, en métropole, essentiellement insectivores. Sinon, dans le monde, elles peuvent consommer du pollen, elles peuvent consommer des fruits. Elles sont aussi hématophages. Voilà, il y a trois espèces qui consomment du sang, hein, de mammifères.
Mais pas d'hommes, rassurez-nous.
Non. non, c'est plutôt des bovins. Mais c'est ce qui leur vaut, par contre, ces trois espèces, vous voyez, sur 1200, c'est ce qui leur vaut une mauvaise image, finalement.
C'était un peu ma transition, voilà. C'est un animal dont la réputation le précède et pas forcément bonne du tout. Moi, j'ai frissonné quand j'ai vu le thème du jour.
Ouais, non, il faut pas. En fait, elles sont nocturnes. Déjà, les animaux nocturnes ont toujours fait peur. On a le loup, hein, qui est un bon exemple. On l'a toujours chassé parce que voilà, c'est une part d'inconnu. Ça vit souvent en forêt. Et donc, ça a alimenté tout un tas de contes populaires, finalement. Voilà, peut-être le dernier en date, c'est Dracula, hein. Et donc, voilà, il y a cette mauvaise image qui était aussi véhiculée, voilà, ça c'est pour l'anecdote, mais par les parents, pour éviter que les jeunes filles sortent le soir, on disait que les chauves-souris s'accrochaient dans les cheveux.
Ah ben voilà, c'est la raison.
Et voilà, et donc du coup, ça a dû marcher à une époque, moi je pense que maintenant ça ne marcherait plus. Et d'ailleurs, c'est une légende populaire du coup, puisque elles ne s'accrochent jamais dans les cheveux.
Elles ne vont pas boire notre sang, elles ne vont pas s'accrocher, voilà, jamais une chauve-souris va venir sur nous. Hein.
Non, non, non. Vous connaissez Monsieur Bigard, hein, donc ce serait une chance sur... voilà.
Une chance qu'elle appuie évidemment sur le digicode. Voilà. Donc c'est un petit insectivore, on le rappelle, mais vous disiez, voilà, pas seulement non plus.
Oui, tout à fait, on a deux espèces en France qui consomment autre chose que des insectes. C'est intéressant de le savoir parce qu'on l'a pris il n'y a pas forcément très très longtemps. On a le murin de Capuccini qui lui va consommer des petits poissons qui sont à la surface de l'eau. Donc il va aller avec sa membrane, je le disais tout à l'heure, sa membrane arrière, il va pouvoir en récupérer comme un filet de pêche, en fait, et puis les consommer un peu plus tard. Et nous avons aussi la grande noctule, qui est la plus grande chauve-souris d'Europe, qui, elle, va, à la particularité, survoler les vols de migrateurs oiseaux, passereaux, et donc va piquer carrément sur les passereaux, en attraper un. Et puis, dans sa descente, en fait, par gravité, en fait, elle va les consommer, puisque pour sa digestion, c'est impératif, avec les plumes.
Avec les plumes. Et puis, autre caractéristique, on peut l'entendre, mais pas forcément notre oreille. Ben, on va écouter, là, quelques chauves-souris. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là précisément ?
Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une traduction des ultrasons émis par les chauves-souris qu'on peut capter grâce à un détecteur d'ultrasons que nous on utilise. Parce que l'oreille humaine est incapable de percevoir des ultrasons. Nous, on entend jusqu'à une fréquence de 20 kHz, beaucoup moins lorsqu'on vieillit, hein, plus on vieillit, moins on les entend. Et donc, ce qu'on peut entendre, nous, ce sont effectivement les cris sociaux, parce qu'ils émettent en dessous ces fréquences. Mais par contre, tout le reste est au-dessus, jusqu'à 110, 120 kHz.
Bon, on va écouter quelques cris sociaux, là. Donc ça, ce qu'on vient d'entendre, on peut l'entendre à l'oreille, nu ?
Alors nous, on peut l'entendre, mais ça, c'est un son qui a été donc enregistré, qui a été ralenti 10 fois. Donc ça nous donne une sonorité un peu particulière, agréable aussi, hein, mais du coup, on n'entend pas ça du tout. Donc ce que vous allez entendre, c'est plutôt des petits crissements, des petits cris, quoi.
Et là, ce sont des cris sociaux qu'on a identifiés.
Oui, tout à fait, ce sont les cris sociaux qu'on entend parfois en sortie de gîte, qu'on entend au moment du rut, Voilà. Et on a aussi des champs, hein, qui font partie aussi des cris sociaux. Et lorsque vous avez des colonies de reproduction, en fait, il y a beaucoup de cris sociaux. Hein, c'est vraiment un animal grégaire qui vit en groupe et donc qui communique.
Dernier son que vous avez aussi apporté. Là, elles vont se suivre grâce à ces sons. On va écouter ça. Voilà, là, on vient d'entendre des sons de décolocation, c'est-à-dire...
Tout à fait. Donc, on a parlé des cris sociaux qui sont plutôt, qui ont plutôt un rôle social. Mais la plupart du temps, les chauves-souris émettent des lustrations pour voir. En fait, elles ont des yeux. Elles peuvent voir les soirs de pleine lune, par exemple. Jour, elles verraient. Sont lustifuges. Elles n'aiment pas trop la lumière, mais elles pourraient voir. Mais elles ont développé l'écholocation, en fait, qui leur permet de voir en émettant des sons, des ultrasons, par la bouche ou le nez. Et en fait, en émettant cette ultrason, elles reçoivent un écho par leurs grandes oreilles. Souvent, ils ont des très grandes oreilles qui reçoivent ces échos. Et elles peuvent traduire, calculer, en fait, leur position, la position de la proie, la position d'un obstacle, etc., en temps réel. Voilà, c'est vraiment un ordinateur très sophistiqué dans ce petit cerveau. Et voilà.
C'est exactement ça, c'est un animal très sophistiqué. Alors, comment elle vit, la chauve-souris, le jour, la nuit? C'est aussi sophistiqué, l'été, l'hiver, le printemps. Réponse dans quelques minutes.
Votre complexe de loisirs Red Zone ouvre bientôt ses portes au 99 rue de Cholet à Chaland.
Squash, bloc d'escalade et trampoline en réel ou réalité augmentée.
Gagnez votre passe VIP pour une journée exceptionnelle. Visitez en avant-première Red Zone avec les plus grands pros. Grégory Gauthier, champion du monde de squash.
David Martin, champion du monde de trampoline.
François Legrand, triple champion du monde d'escalade.
Pour tenter de gagner une journée complète à Red Zone le 30 juillet, jouez sur le Facebook 9FM du 3 au 9 juillet.
Voir conditions sur place.
9.
Là-bas, vous pourrez encore entendre parler d'ici. Nouvelle application 9FM, toute la programmation, gratuite, où que vous soyez.
9FM, ma radio, ici et ailleurs.
Nouveau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Escale Pêche embarque les petits et les grands dans le monde de la pêche. Plongez au cœur de l'activité portuaire à travers une scénographie ludique et interactive. Laissez-vous conter l'histoire du port, les différentes espèces de poissons, les techniques de pêche, la vente à la criée. Escale Pêche, 53 quai Marcel Bernard, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Informations et réservations au 02 28 17 79 88. Plus d'informations sur escalepêche-vendée.fr.
Oh, j'ai tellement utilisé mon lit durant le confinement. Je crois qu'il est temps de le changer. Et pourquoi pas changer le linge de maison? Alors ça tombe bien, parce qu'apparemment ce sont les soldes à la literie de Morphée. Il y a jusqu'à 50% de remise sur les plus grandes marques de literie et de linge de maison, comme Treka, Bultex ou encore Epeda. Si comme moi vous voulez profiter du bon plan, rendez-vous chez Literie de Morphée, route de Nantes à Chaland.
Oh, allez, une petite sieste et j'y vais.
Soldes du 30 juin au 27 juillet sur articles signalés en magasin.
Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me.
samedi sur 9FM, nous découvrons le monde fascinant des chauves-souris, un petit mammifère qui fait un peu peur, mais surtout qui est admirable. On sait beaucoup de choses sur son adaptation à son environnement. Déjà, aux saisons. Gwenaël Landet est avec nous, technicien forestier territorial. Vous pourrez peut-être le croiser sur le Pays de Mont, c'est votre secteur, avec l'ONF. L'hiver, donc, la chauve-souris hiberne presque.
C'est exactement ça, elle hiberne presque, parce qu'en fait c'est pas une vraie hibernation. En fait, à l'arrivée de l'hiver, elle va rejoindre ses gîtes hivernaux, plutôt des endroits plutôt frais, mais avec peu de variations de température. Donc on va les retrouver dans les caves, dans les mines, dans les cavités, les grottes, etc. Et donc elle va abaisser sa température corporelle de quelques degrés. Et elle va se mettre en léthargie. Elle va passer de 600 pulsations minutes en termes de chasse, au niveau cardiaque, à 10 pulsations minutes, avec une respiration, pour sa respiration, toutes les demi-heures. Vous voyez, c'est vraiment du ralenti, quoi. Hein. Elle ralentit tout le métabolisme. Et le but, c'est de rester avec les réserves qui ont été faites avant, de rester les 6 mois endormis. Sauf que, si jamais il y a des variations de température, alors... Ou plus froide, c'est-à-dire que là on craint le gel et puis du coup elle va entamer son processus de réveil pour aller dans des endroits un peu plus chauds, ou alors plus chaud et donc émergence d'insectes, donc ça veut dire nourriture, un peu d'énergie pour finir l'hiver, et donc ça c'est aussi intéressant, on peut se réveiller. Et puis aussi quelque chose un peu unique aussi chez les chauves-souris, c'est que les mâles vont profiter quelquefois de l'endormissement des femelles pour venir se reproduire. Alors en termes de culture humaine, c'est pas très joli, par contre pour eux ça permet d'avoir vraiment un brassage génétique, et donc voilà, c'est impératif pour la survie des espèces.
Et donc si je comprends bien, ça la réveille pas la femelle?
Si, elle est contrainte de se réveiller tout de même, elle doit pas être très contente, mais voilà.
On retrouve justement aussi les des sens au printemps, et c'est justement un animal qui est assez sexué dans plusieurs sens du terme. Il y a les mâles avec les mâles, les femelles avec les femelles.
Oui, souvent c'est ça, oui. Et au printemps, effectivement, c'est le moment des naissances. La fécondation a été provoquée, la gestation arrive, et donc les femelles se sont groupées en colonies de reproduction. Elles ont installé les colonies sur des endroits plutôt riches, avec points d'eau, avec émergence d'insectes, voilà, pour pouvoir nourrir leur progéniture. Les mâles, eux, se sont éparpillés un petit peu, souvent dans des contrées un peu moins riches, on va dire, et de façon isolée ou en petit groupe.
Arrive le temps de la maternité, qui est aussi important pour ce mammifère.
Oui, complètement, et c'est vraiment structuré comme une maternité, en fait. Elles se sont retrouvées en colonie, les femelles vont se mettre un petit peu à l'écart pour mettre bas leurs petits, à l'horizontale, hein. Elles font un petit par an, en règle générale, et du coup, après, elles rejoignent la colonie avec leurs petits, et le fait d'avoir... cette maternité fait qu'elles peuvent aller chasser pendant que la collectivité, finalement, gère les petits. Elle revient après au gîte et elle retrouve son petit directement.
Et pendant quelques semaines, elle l'élève jusqu'à l'envol des bébés, des petits maintenant.
Voilà, c'est ça. Au bout de 4 semaines, en fait, c'est l'envol des jeunes. Et puis, on repart pour un cycle, on part très vite sur la période de rut et de reproduction.
Et on part aussi pour un autre temps, c'est le swarming. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, c'est justement la période de rut. On va avoir des espèces qui vont se regrouper soit sous des voûtes forestières, des entrées de cavités. En fait, des sites qui sont certainement connus dans la mémoire génétique de ces espèces. On peut retrouver plusieurs espèces sur un même site. Et donc là, les mâles et femelles des environs plus ou moins lointains, d'ailleurs, se regroupent pour les paras. Donc on a beaucoup de cris sociaux, on a des périodes de copulation. Et du coup, voilà, c'est vraiment la période de rut pour avant l'hiver. On a aussi des espèces qui sont un peu plus spécialisées, finalement, dans notre type de rut. Sont les migratrices. Où là, on va avoir une autre stratégie, les mâles vont se mettre vraiment à l'entrée des cavités, sur les couloirs migratoires, et les femelles vont les entendre chanter, et du coup, c'est un deal. C'est-à-dire que le mâle offre le gîte, et la femelle donc arrive dans le gîte pour la nuit.
J'adore, à chaque fois, on apprend plein de choses, on découvre vraiment des codes sociaux aussi, hein, quelque part, et je découvre avec vous que cet animal peut être un très grand migrateur. Il y a des sédentaires, des migratrices, et des très grandes migratrices.
Complètement. On a les sédentaires qui vont rester... sur les gîtes hivernaux et estivaux, finalement, assez proches. Quelquefois, c'est une même maison, hein. C'est un grenier qui fait office des deux, hein. On a le cas pour les pipistrelles communes. On a quelquefois un petit transit, en fait, léger, des fois d'une centaine de kilomètres. Et puis, on a effectivement, je vous parlais de la grande noctule. La grande noctule fait des milliers de kilomètres. En fait, elle va rejoindre les gîtes hivernaux vers le sud-ouest. Voilà, des grandes noctules de Hollande peuvent se retrouver en Espagne.
Comment on sait tout ça? Comment est-ce qu'on suit les chauves-souris? méthodes ont été mises en place pour ce suivi?
Alors, il y a plusieurs méthodes. Donc, la moins intrusive, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est l'écoute par ultrasons. En fait, on a nos détecteurs et puis donc on connaît un peu les espèces qui sont devant nous, qui utilisent les habitats. Ça ne nous suffit pas, en fait. Nous, on a besoin d'avoir voir s'il y a de la reproduction ou pas, de voir la morphologie des espèces, etc. Donc, pour ça, on a la capture. En fait, on va installer des filets, comme les filets qui sont utilisés en ornithologie. On va capturer les chauves-souris, on va les mesurer, on va faire toute la biométrie. Et puis, ensuite, on les relâche, bien sûr. Hein. Et quelquefois, on les équipe. On peut les équiper de balises GPS. On les suit, en fait, on suit leur mouvement sur plusieurs jours. Des fois, par télémétrie, hein, en fait, on suit avec des antennes, il y a plusieurs équipes, et on fait de la triangulation. Et on arrive à voir, à repérer beaucoup de gîtes, beaucoup de territoires de chasse, et comme ça on arrive vraiment à voir comment elles évoluent. Et pour les grandes migratrices, en fait, c'est essentiellement aussi par bagage. Lorsqu'on bague des animaux, qu'on les retrouve à plusieurs milliers de kilomètres, on se dit que là, elles ont vraiment beaucoup bougé.
On apprend plein de choses avec toutes ces méthodes qui sont importantes, car les espèces, on l'a entendu, hein, sont menacées, à protéger. Et j'ai découvert aussi avec vous que le législateur en France a bien pris en compte, hein, cette menace et protège la chauve-souris.
Oui, il y a toute une série de protections pour ces espèces. En 2007, du coup, tout est protégé. Toutes les espèces sont protégées, tous les habitats sont protégés, et on risque gros lorsqu'on perturbe ces espèces, puisqu'on risque jusqu'à 9000 euros d'amende, et puis une peine d'emprisonnement de 6 mois.
Parce qu'elles sont importantes, on l'a dit, hein, ces chauves-souris, notamment dans leur rôle, vous l'avez dit, de régulateur d'insectes. Je rappelle, hein, toutes les nuits, elles mangent entre 600 et 1000 moustiques. Merci les chauves-souris, alors.
Oui, complètement, parce qu'on se rend pas compte, on commence à avoir des études là-dessus, hein, mais on se rend pas compte des services qu'elles nous rendent, notamment en forêt, avec les défoliateurs, hein, on a des chenilles qui défiolent, qui mangent les feuilles, donc, de nos arbres, et donc, elles ont aussi leur rôle à jouer dans la régulation des insectes. Et là où il faut les protéger, que ce sont des animaux vraiment très sensibles, avec un petit parent, vous imaginez bien, avec un bilan énergétique vraiment toujours en équilibre, dès l'instant qu'on dégrade un habitat ou qu'on les dérange, finalement ça peut être dramatique pour une colonie entière et un individu.
On va terminer l'émission, je ne sais pas si vous le savez, Gwenaëlle Landais, par cette petite question que je pose à tous mes experts, parce que ça nous fait avancer aussi. Pourquoi cette biodiversité est si importante pour vous, alors au sens large évidemment, au quotidien, vous la préservez, pourquoi c'est si important?
En fait, j'ai une image qui n'est pas moi, mais qui est très pédagogique. Imaginons que la biodiversité, c'est un ensemble de chaînes, des chaînes alimentaires. Ces chaînes alimentaires constituent une sphère, disons que c'est la planète Terre. Si jamais il y a un maillon, toutes ces chaînes sont entremêlées, si un maillon qui vient à céder, la sphère va tenir quand même. Si jamais cette sphère est limitée à une seule chaîne et qu'un maillon vient à céder, du coup, il n'y a plus d'équilibre du tout, et c'est la mort, en fait, la mort de cette planète. Après, il ne faut pas se leurrer derrière la biodiversité, la conservation de la biodiversité. Il y en avait avant nous, il y en aura forcément après nous. Là, on parle vraiment, l'enjeu, vraiment, c'est l'espèce humaine, et qu'elle continue à vivre dans les conditions qu'on a aujourd'hui, voire meilleures.
À réfléchir, chers auditeurs. Merci beaucoup, Gwenaëlle Landais. On vous retrouve en podcast sur le site et l'appli de Nov FM. Bonne nouvelle, dès la semaine prochaine, Océan Marennemont reprend ses nocturnes insolites et justement ses soirées bruit de forêt au départ de Biotopia. Et vous serez présent, je crois, Gwenaëlle, mercredi soir à Notre-Dame-de-Mont. Vous croiserez peut-être et forcément même, je crois,